Tout de suite, nous vous proposons une intervention de Mgr Scherrer, intitulée « Les saints nous parlent de Dieu, ils sont théologiens ». Cet enseignement a été enregistré lors de la soirée de lancement des parcours 2020-2021, organisée par le service formation permanente du diocèse de Laval.
Voilà, donc bonsoir mes amis. Je vais redire l'intitulé de la commande qui m'a été faite pour cette petite intervention de ce soir, qui sera toute simple, sans prétention. Les saints nous parlent de Dieu, ils sont théologiens, avec en toile de fond l'exhortation apostolique du pape François, Gaudete et exultate, ce qui se traduit en français, soyez dans la joie et l'allégresse. Donc, avec joie, c'est le cas de le dire, je vais essayer de développer un peu cette thématique en vous disant au préalable sur quel support bibliographique je m'appuie et sans bien sûr, j'ai toujours mon portable avec moi, hein. C'est bien sûr la Bible, voilà, en petit exemplaire et ici en grand exemplaire, c'est la même traduction, la Bible de Jérusalem. Et puis bien sûr, puisqu'il en est question de l'exhortation apostolique du pape François, qui date déjà de 2014. Et puis je vais m'appuyer assez volontiers sur un grand auteur, un grand théologien, qu'on peut sans conteste classer comme un des plus grands théologiens du XXe siècle, Hans Urs von Balthasar, dans un texte absolument magnifique qu'il a rédigé, d'ailleurs en français, parce que Balthasar a écrit pas mal de choses en français, y compris des livres entiers d'ailleurs, donc il était très doué pour les langues, et en 1948, il a produit un texte précisément qui a pour titre « Théologie et sainteté », texte absolument magnifique, qui a été commenté par Mgr Philippe Barbarin, du temps où il était encore évêque de Moulins, et vous trouvez ce volume dans les cahiers de l'école cathédrale, on connaît ça, ça date déjà de 1999. Et puis, un théologien, Carme, qui est aussi un grand ami, que je connais depuis 40 ans et plus, François-Marie Lettel, qui est spécialiste vraiment de cette question-là, puisqu'il nous a offert une trilogie très fouillée sur la théologie des saints, le premier en 1989, dans les éditions du Carmel, « Connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, la théologie des saints ». C'est vraiment l'ouvrage qui l'a fait un peu connaître. Il est professeur à Rome au Thérésianum, université Carme. Et puis, il a publié ensuite, un peu plus tard, en 1996, ce nouveau volume, « Théologie de l'amour de Jésus », écrit sur la théologie des saints. Et vous savez que, comme il a été invité par le pape Benoît XVI à prêcher la retraite de carême de 2011 au pape et à la curie romaine, eh bien, il a publié cette retraite de carême avec Benoît XVI, « La lumière du Christ dans le cœur de l'Église ». Jean-Paul II et la théologie des saints. Et puis, il a encore produit avec Elisabeth de Baudouin, une journaliste, un petit volume plus petit, cette fois-ci, en 2018, chez Salvator, « Les saints nous conduisent à Jésus ». Je pense que c'est clair. Il est habité, évidemment, par cette thématique depuis longtemps. Alors, en guise d'introduction, je vais redire ce qui est une évidence pour tous. Tous les saints sont théologiens. Seuls les saints sont théologiens, au sens fort du terme. Tous les saints sont théologiens, y compris les saints analphabètes. Parce qu'il y en a eu, comme Sainte Catherine de Sienne, par exemple, qui dictait ses lettres et qui pourtant est docteur de l'Église. Elle est même la première femme, avec Sainte Thérèse d'Avila, à avoir reçu ce titre jusque-là réservé aux hommes, et c'était en 1970. Cette identification entre sainteté et théologie nous semble trouver son meilleur appui dans ce qu'écrit Saint Jean, dans la première épître, chapitre 4, verset 7-8, « Tout homme qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Oui, la théologie est présente là où l'amour est présent. Elle est absente là où l'amour est absent. Elle est d'autant plus profonde que l'amour est plus grand. C'est en devenant toujours plus aimant que nous parviendrons le mieux à connaître Dieu, précisément parce que Dieu est amour. Connaître Dieu, hein, c'est connaître, c'est-à-dire naître avec lui, naître à une nouvelle vie, à la vie d'amour. Hein, c'est le principe, vous le savez, de la connaissance du semblable par le semblable. Alors, peut-être on peut faire un constat à partir de ce petit préambule qui, je pense, ne saurait nous laisser insensibles ou indifférents. Quand on parcourt l'histoire de l'Église, on voit que dans sa toute première partie, c'est-à-dire dans les premiers siècles, les théologiens sont tous des saints et que leur enseignement est une partie intégrante de leur action pastorale. Les grands saints, c'est-à-dire ceux qui, non seulement par un certain effort personnel, sont arrivés à une pureté de vie exemplaire, mais qui ont aussi manifestement reçu de Dieu une mission dans l'Église, étaient aussi, pour la plupart d'entre eux, de grands dogmaticiens. Pensons, pour ne citer qu'eux, à Irénée, Cyprien, Athanase, les deux Cyrilles, Cyril de Jérusalem, Cyril d'Alexandrie, Basile, Grégoire de Naziance, Grégoire de Nice, NY2SE, pas sur la Côte d'Azur, Épiphane, Théodore de Mopsuès, Chrysostome, Théodoret, Hilaire, Ambroise, Augustin, Fulgence, Isidore, qui furent tous évêques, sans parler, bien sûr, des grands papes docteurs, Saint Léon et Saint Grégoire. Chacune de leur existence, on peut dire, exprime et manifeste l'union personnelle entre le ministère de docteur et le ministère de pasteur, dans le sens de Éphésiens, chapitre 4, verset 11, qui cite les deux charges, l'une à côté de l'autre, même si, bien évidemment, il y en a qui sont docteurs sans être vraiment pasteurs, et puis inversement, ceux qui ont un charisme de pasteur, mais qui ne sont pas spécialement docteurs. En tout cas, dans cette première partie des premiers siècles de l'Église, c'est une réalité. Les pères de l'Église sont en quelque sorte des hommes complets. Ce qu'ils enseignent, ils le vivent dans une unité si spontanée qu'il serait vain de distinguer dans leurs œuvres celles qui traitent du dogme, à proprement parler, et celles qui traitent de la vie chrétienne. Et c'est comme ça que ces pères de l'Église sont devenus des colonnes de l'Église, appelées à soutenir la vitalité de l'Église précisément parce qu'ils représentèrent dans leur vie la plénitude de sa doctrine et dans leur doctrine la plénitude de sa vie. Alors, puisque c'est la question qui m'a été posée, comment les saints théologiens nous parlent de Dieu ? Eh bien, je répondrai en 7 points. 7, c'est bien, perfection. Premièrement, par leur existence même qui est de la théologie vécue. Deuxièmement, par leur théologie enracinée dans la Sainte Écriture. Troisièmement, par leur prière qui est leur théologie même. Quatrièmement, par leur christocentrisme, j'espère que ce n'est pas un gros mot pour la plupart d'entre vous, c'est-à-dire que vraiment le Christ est leur centre incandescent. Cinquièmement, par l'Esprit Saint qui vit en eux comme le souffle qu'ils respirent, la langue qu'ils parlent. Sixièmement, par leur amour de l'Église. Et septièmement, par leur présence au monde et à l'histoire. Alors, premièrement, comment les saints théologiens nous parlent de Dieu ? Ben, évidemment, leur existence même est de la théologie vécue. Théologie vécue. Nous lisons cette expression sous la plume de Saint Jean-Paul II, dans la bulle d'indiction, vous savez, qui nous introduisait au grand millénaire, au nouveau millénaire de l'an 2000, Novo Millennio Inneunte. au numéro 27, où le pape Jean-Paul II parle du grand patrimoine qu'est la théologie vécue des saints. La théologie vécue, c'est quoi? C'est l'union du savoir et de la vie. C'est par cette cohérence, cette conjonction de la pensée et de la vie que vraiment les grands docteurs de l'Église sont rendus capables de devenir, conformément à leur charge particulière, d'authentiques phares et d'authentiques pasteurs de l'Église. Enseigner la vérité est chez eux une des exigences de la charité, au même titre que le service des pauvres ou l'administration des sacrements. Et le peuple chrétien, des fidèles, comprend la doctrine de ces pasteurs simplement, eh bien, en regardant leur vie, qui en est comme un exposé transparent. On se souvient de cette belle parole de Paul VI, Saint Paul VI aussi, qui dans Evangelii Nuntiandi, au numéro 41, nous dit « L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. » Alors je cite Balthazar à la page 118, il nous dit ceci, « Les saints ne nous sont pas accordés pour que nous les admirions bouche bée, comme des hommes extraordinaires, capables de réalisations héroïques, mais afin que nous recevions en eux des illustrations de la vie intérieure du Christ, tant pour notre intelligence de la foi que pour notre vie de foi dans l'amour. La sainteté, c'est cela, la manifestation de la vérité dans la vie. C'est ce que l'existence des saints nous montre, à savoir que la science de la foi, scientia fidei, et la science de l'amour, scientia amoris, sont aussi théologiques l'une que l'autre. La première n'est pas supérieure à la seconde. Et concrètement, eh bien, cela consiste à mettre au même niveau, ben oui, osons le faire, saint Thomas d'Aquin, représentant éminent de la science de la foi, et sainte Thérèse de Lisieux, emblème par excellence de la science de l'amour, et on peut dire, sans craindre de se tromper, que finalement, ben, la somme théologique et puis les manuscrits autobiographiques, eh bien, ils se valent. Ils ont le même poids aux yeux de Dieu. C'est ce que saint Jean-Paul II avait affirmé dans Novo Millennio Ineunte, au numéro 42. Il disait que, précisément, la charité étant le cœur de l'Église, comme le dit saint Paul, hein, dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 13, la première, c'est ça qui a conduit Jean-Paul II à proclamer Thérèse, docteur de l'Église, justement comme experte en science de l'amour. Voilà, je compris que l'Église avait un cœur, que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout. Donc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus vraiment mérite ce titre de docteur de l'Église. Merci Saint Jean-Paul II de nous avoir fait ce cadeau. Et précisément, dans le bref discours que le pape Benoît a adressé au père Lethel, juste à la fin de sa prédication de la retraite de Carême, eh bien, il enfonçait le clou. Il l'a dit, « Père Lethel, vous nous avez montré que la science de la foi et la science de l'amour vont ensemble et se complètent. » Et il a ajouté, « Mais que le grand amour voit plus grand que la grande raison. » C'est Benoît XVI qui parle. Alors, lorsque le savoir se déconnecte de l'amour, eh bien, vous le savez, on bascule subrepticement dans le gnosticisme. Ce que Paul dénonce très clairement lorsqu'il dit, 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 1, « La science enfle, c'est la charité qui édifie. » Ce que l'on peut comprendre hein, d'une science qui enfle, c'est, on pourrait dire, toute pensée, aussi logique et déductrice fut-elle, qui s'écarte du centre de la révélation pour servir au bout du compte à la curiosité ou à la vanité de l'homme. Si elles ne sont pas dirigées vers la vertu surnaturelle de la foi et de l'amour, si elles ne sont pas informées par elles, pour parler à la manière de saint Thomas, toutes les pensées du monde ne sont que vanité. Et vous savez très bien que dans son exhortation apostolique sur la sainteté, eh bien le pape François a dénoncé vigoureusement cette tentation du gnosticisme, qui lui paraît encore très actuel aujourd'hui, et qui consiste justement à croire que l'on peut devenir saint par l'intelligence. Il nous dit « ce n'est pas la connaissance qui nous rend meilleurs, ni saints, mais la vie que nous menons ». Je cite au numéro 45 de cette exhortation « Il se produit fréquemment une dangereuse confusion, croire que parce que nous savons quelque chose ou que nous ne pouvons l'expliquer selon une certaine logique, nous sommes déjà saints, parfaits, meilleurs que la masse ignorante. Mais en réalité, ce que nous croyons savoir devrait être toujours un motif pour mieux répondre à l'amour de Dieu, car on apprend pour vivre. Théologie et sainteté sont un binôme inséparable, nous dit le pape François. » Donc, première chose, l'existence des saints parle d'elle-même, elle est de la théologie vécue, elle parle de Dieu par leur vie. Deuxièmement, leur théologie, elle est enracinée dans la Sainte Écriture, et ça, évidemment, ce n'est pas un détail. Et là, il faut laisser parler l'étymologie théos, Dieu, et logos, parole, discours. Les deux mots grecs qui forment celui de théologie peuvent se décliner de plusieurs manières. Parole sur Dieu, parole à Dieu, ou encore parole de Dieu. Au sens courant, nous le savons, théologie veut dire discours sur Dieu. Le point de départ de la théologie, c'est donc la parole de Dieu. Et de fait, jusqu'au VIe siècle, lorsque les pères grecs utilisent le mot théologia, ils désignent l'écriture, toujours, et en premier lieu, bien sûr, l'évangile. Et celui qu'on appelle le théologien, ô théologos, c'est saint Jean. En remontant à la source, on comprend que le théologien, c'est avant tout le Verbe lui-même, celui qui, nous dit saint Jean dans son prologue, est tourné vers le Père, logos pros ton eon, et qui nous le fait connaître, en quelque sorte, qui en est l'exégète. C'est le Fils, le Verbe, le Christ qui est l'exégète du Père. Oui, Jésus le Fils est celui qui nous transmet tout ce qu'il a entendu du Père et qui le dit comme le Père le lui a dit. On a la transfiguration, hein, la parole du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, Matthieu 17,5. Par quoi on voit que le travail du théologien, eh bien, il commence là, dans le fait de se tourner du côté où Dieu parle, dans l'écoute de la parole et la contemplation du Fils. Chez les saints théologiens, la parole de Dieu est toujours tout autant une parole de vie qu'une parole de vérité. En la méditant comme Marie dans son cœur, parce que Marie est le modèle de Laurent, du priant, le théologien intériorise la parole de vérité. « Si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus, vous connaîtrez la vérité. » C'est alors que la parole de Dieu devient, dans le théologien, prière, parole à Dieu. Et le souffle missionnaire qui habite cet échange entre Dieu et l'homme le conduit à extérioriser ce don, à en faire une parole sur Dieu, offerte aux autres hommes. Voilà, c'est ainsi que les pères nous ont appris à voir et à retrouver le Christ partout dans l'Écriture. Et je voudrais citer Origène, le premier grand exégète de l'Église, au tout début de son commentaire sur l'Évangile de saint Jean. Voilà ce qu'il écrit, c'est une prière. Au moment de dicter le tome 20 sur l'Évangile selon saint Jean, Ambroise, très pieux et très désireux de t'instruire dans le Seigneur, nous prions pour recevoir de la plénitude du Fils de Dieu, en qui toute la plénitude s'est plu habiter, des pensées pleines et pour ainsi dire compactes, ne comportant aucun vide, afin que l'Évangile nous soit dévoilé au fur et à mesure de l'examen des textes, sans que nous négligions rien de ce qui doit être examiné et confié à des écrits qui en gardent la mémoire, et sans que nous nous attendions plus qu'il ne faut, ou que nous interprétions mal la pensée de notre Sauveur Jésus. Que Dieu nous envoie donc le Verbe même, se manifestant lui-même, afin que par le don du Père, nous parvenions à contempler sa profondeur. Beau passage introductif d'Origène pour son commentaire sur l'évangile de Jean, que j'eus la joie, dans des années passées, de travailler un peu pour ma licence de théologie. Troisièmement, ce qu'on peut dire justement les saints théologiens, c'est que la prière est leur théologie. Voilà, je reste avec la demande exprimée par Origène, que Dieu nous envoie le Verbe même se manifestant lui-même, afin que par le don du Père, nous parvenions à contempler sa profondeur. Ça, c'est vraiment une autre caractéristique des saints théologiens. Leur prière est contemplative. Impossible pour eux de s'éloigner de la source intarissable de vie qui jaillit à tout instant de la bouche du Verbe éternel. Ils veulent toujours être en accueil, c'est-à-dire en prière. Leur théologie est essentiellement un acte de l'adoration et de la prière. Là, je suis une petite sainte qui nous est chère à tous, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle dit, dans ses manuscrits autobiographiques, manuscrit C36.1, « Tous les saints l'ont compris, et plus particulièrement peut-être ceux qui remplirent l'univers de l'illumination de la doctrine évangélique. Hein, » est théologien. N'est-ce point dans l'oraison que les saints Paul, Augustin, Jean de la Croix, Thomas d'Aquin, François, Dominique et tant d'autres illustres amis de Dieu ont puisé cette science divine qui ravit les plus grands génies. Le Tout-Puissant leur a donné comme point d'appui lui-même et lui seul pour levier l'oraison qui embrase d'un feu d'amour, et c'est ainsi qu'ils ont soulevé le monde. C'est ainsi que les saints encore militants le soulèvent et que jusqu'à la fin du monde, les saints à venir le soulageront aussi. Voilà comment la théologie chrétienne, la dogmatique chrétienne, doit exprimer l'attitude de prière du penseur qui se veut être docile à sa foi en présence de l'objet de sa réflexion. Et on pense à un autre grand théologien, saint Anselme de Canterbury, « Je ne puis te chercher si tu ne me l'enseignes, ni te trouver si tu ne te montres » dans son proslogion. On doit à saint Anselme cette fameuse expression « Fides quaerens intellectum », la foi qui cherche l'intelligence. C'est en priant que le saint théologien approche du mystère, c'est en priant qu'il entreprend toutes ses recherches sur Dieu, sur ses attributs, comme s'il y avait dans la révélation surnaturelle de Dieu en Jésus-Christ, et là je reprends une très belle expression de Balthazar, comme s'il y avait dans la révélation surnaturelle de Dieu en Jésus-Christ quelque chose que le cœur ne peut pas recevoir autrement qu'à genoux. Très beau. Voilà, la théologie à genoux pour recevoir ce qui vient vraiment du cœur de Dieu. En précisant bien sûr ceci, attention, qu'une théologie « priée » entre guillemets ne signifie pas une théologie affective par opposition à une autre, authentique et rigoureusement scientifique. Aussi longtemps qu'elle fut une théologie des saints, la théologie était une théologie priante, agenouillée dans l'adoration. C'est pourquoi l'apport des saints théologiens a été pour l'Église évidemment d'une richesse incommensurable. Quatrième manière pour les saints de nous parler de Dieu, et ce n'est pas non plus bien sûr un détail, c'est leur christocentrisme. On aurait même pu commencer par ça, bien sûr, mais bon, il faut bien les mettre dans un certain ordre. Le Christ, vraiment, est leur centre incandescent. Dans son exhortation, le pape François, sur la sainteté, nous dit, c'est très beau et très important, « Chaque saint est une mission ». Il est un projet du Père pour refléter et incarner à un moment déterminé de l'histoire un aspect de l'Évangile. Et il ajoute, cette mission trouve son sens plénier dans le Christ et ne se comprend qu'à partir de lui. Au fond, la sainteté, eh bien, c'est vivre les mystères de sa vie en union avec Jésus. Elle consiste à s'associer à la mort et à la résurrection du Seigneur d'une manière unique et personnelle, à mourir et à ressusciter constamment avec lui. Et comme le mystère de Jésus ne peut être embrassé par une seule personne, c'est évident, les saints en révèlent dans leur vie une facette particulière. Ils reproduisent dans leur existence personnelle tel ou tel aspect de la vie terrestre de Jésus. Alors le pape François parle par exemple de sa vie cachée. Moi je verrais bien le bienheureux Charles de Foucault incarnant la vie cachée de Jésus, à Tamanrasset. Sa vie communautaire, alors sa vie communautaire, je pense spontanément, parce qu'il vient de nous quitter Michael Lonsdale, au moine de Tibérine. Comment cette belle vie monastique qui a conduit ces moines à vouloir rester pour témoigner de Jésus en pays musulman, en Algérie, voilà. C'est une incarnation de la vie communautaire de Jésus. La proximité de Jésus avec les petits, alors là on en a des myriades, mais on pense à Sainte Mère Teresa bien sûr, sa pauvreté, ce Sainte Claire, puis bien d'autres expressions du don que Jésus a fait de lui-même par amour. Alors voilà le christocentrisme des saints, Saint Paul le chante dans l'Épître aux Éphésiens, dans sa prière au chapitre 4, verset 14-19, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez fondés, enracinés, fondés dans l'amour. Ainsi vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance et vous entrerez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. Voilà, ça c'est la caractéristique des saints théologiens. Ils ne quittent aucun instant leur centre dans le Christ. Quand on regarde les écrits de Thérèse de Lisieux, on voit que le nom de Jésus revient pas moins de 1600 fois. Le nom de Jésus. Des fois elle dit « mon Dieu » puis « Jésus ». Pour Thérèse, le nom de Jésus est le nom divin par excellence. Ce qui fait que son christocentrisme, il est toujours théocentrique et trinitaire. Et puis bien avant, on pourrait citer Sainte Claire qui avait dit son amour de Jésus aussi d'une façon tellement magnifique. « Aime totalement celui qui pour ton amour s'est donné lui-même tout entier », écrivait-elle à Sainte Agnès de Prague. Il s'agit d'aimer Jésus totalement en réponse à l'amour total qu'il a pour chacun d'entre nous personnellement, puisque chacun peut dire en vérité comme saint Paul, le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré pour moi. Voilà, le vrai travail d'un exégète ou d'un théologien, il ne peut se faire que dans un lien vital avec le Christ à l'image du serment rattaché à la vigne. Tous les saints théologiens n'ont eu qu'un seul désir, aimer Jésus et le faire aimer, ayant eux-mêmes reçu cette grâce de comprendre combien Jésus désire être aimé, combien il a soif de notre amour. Et puis, comme on est dans le cadre de la formation permanente, j'ai pensé ouvrir une petite parenthèse en ajoutant que les saints peuvent aider grandement les chrétiens d'aujourd'hui à surmonter le scepticisme né de la séparation instaurée par la critique entre le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. On connaît toute cette polémique qui a agité le monde de la théologie à partir du XVIIIe siècle, dans le sillage de Reimarus, qui est le père de la quête du Jésus historique au XVIIIe siècle. Il s'agissait d'arracher Jésus au corset dogmatique dans lequel l'avait emmailloté l'Église. Les historiens voulaient lui restituer son vrai visage, le purifier de la contamination théologique à laquelle l'avait exposé déjà de son vivant les disciples et les saintes femmes. Pour Renan, tout ce qui relève du surnaturel, les miracles, les visions, la résurrection, ça émane de l'imagination enfiévrée d'âmes crédules. Eh bien, dans sa trilogie sur Jésus de Nazareth, Benoît XVI va justement défendre l'idée que les découvertes des historiens sur Jésus et la foi chrétienne doivent s'éclairer mutuellement, alors que Albert Schweitzer avait dit que les deux n'avaient rien à voir entre eux. Sans refuser, bien sûr, la légitimité du travail des sciences historiques et sans avoir peur des questions que celles-ci posent aux exégètes, la théologie des saints souligne que le Jésus terrestre ne peut être réduit à ce que les sciences humaines appréhendent à son sujet, avec des méthodes et selon des critères par ailleurs variables. De l'Adversus Hereses de saint Irénée à l'histoire d'une âme de sainte Thérèse de Lisieux, en passant par le cours Deus Homo de saint Anselme et la Tertia Pars de saint Thomas, les écrits des saints manifestent que les évangiles, tels qu'ils nous ont été transmis, permettent à la foi aimante et à l'intelligence croyante de connaître en toute vérité Jésus tout entier, sans le couper en morceaux. Jésus nous appartient tout entier, disait Charles Péguy dans une très belle œuvre, Un nouveau théologien. Cinquièmement, comment les saints nous parlent de Dieu ? En parlant la langue du Saint-Esprit, tout simplement. C'est saint Paul qui nous dit encore, nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est dans l'Esprit Saint. Mais on peut dire que les saints théologiens sont des charismatiques au sens fort. Oui, parce que c'est l'Esprit Saint qui fait les saints. Ça a l'air bête de le dire, mais il faut le faire. Et qu'est-ce que c'est la sainteté quand l'Esprit Saint est à l'œuvre? On peut dire c'est le triomphe de l'amour de Dieu dans un homme, dans une femme. C'est une invasion progressive de l'amour qui peu à peu transforme l'homme, purifie, divinise et en fait un saint. Et en envahissant l'homme, tout l'homme, Dieu va saisir plus spécialement ses facultés les plus hautes, l'intelligence et la volonté. On peut dire que la sainteté dans l'Esprit Saint, c'est vraiment le triomphe de la lumière dans l'intelligence et puis le triomphe de la force de Dieu dans la volonté. C'est toujours, en tout cas, l'action de Dieu qui vient au secours de la faiblesse de l'homme. Alors qu'on peut énumérer quelques signes de la présence de l'Esprit dans la vie des saints. J'en énumérerai deux. D'abord, leur joie et leur humour. Il y a eu quelqu'un qui a écrit un livre, « Dieu est humour ». Je ne l'ai pas lu, mais il paraît que c'est très bien. On prête à saint François de Sales cette parole, « Un saint triste est un triste saint ». Et François le confirme dans son exhortation, il dit « La mauvaise humeur n'est pas un signe de sainteté ». La vie, enfin, bon entendeur, salut. Alors, comme humour, écoutez-moi, je me lâche un peu et j'en donne quelques illustrations rapidement. Saint Laurent, vous savez qu'il a été brûlé vif, sur son grill, il aurait dit à son bureau « C'est bien grillé de ce côté, tu peux me retourner ». Saint Thomas More, montant à l'échafaud, « Aidez-moi à monter, pour descendre, je m'en tirerai bien tout seul ». Saint Philippe Néri, vous savez qu'il était gratifié de pas mal de faveurs mystiques, ça l'humiliait beaucoup, alors il usait de stratagèmes pour qu'on ne perçoive pas justement qu'il était l'objet de ses faveurs. Alors il avait plein de petits moyens pour essayer de se recramponner à la réalité quand tout à coup il partait dans les altitudes, par exemple, dans une procession du Saint-Sacrement un jour, pour ne pas partir en lévitation, il a tiré la barbe d'un garde suisse. Voilà, ça c'était sa manière à lui, avec humour, je ne sais pas si l'autre a bien... Et puis vous savez, saint Jean 23, visitant l'hôpital du Saint-Esprit à Rome, donc, magnifique cette histoire, survient tout à coup une religieuse affolée, qui sait que le pape est là, elle lui dit « Très sympa, je suis la supérieure du Saint-Esprit ». Et Jean 23 de répondre « Quelle chance vous avez, je ne suis que le vicaire du Christ ». Voilà, deux petites illustrations, faciles, mais c'est vrai que l'humour, ça fait partie aussi la joie de la caractéristique des saints. Et puis on peut dire plus sérieusement, leur audace, leur enthousiasme, leur ferveur apostolique, leur parler vrai, leur assurance dans l'annonce de l'évangile. Autant d'attitudes que traduit le vocable parésia, qui court en particulier dans la Bible, en particulier dans les actes des apôtres, cette assurance qui manifeste la liberté d'une existence ouverte, toute disponible à Dieu et aux autres. Pape François, dans Gaudete et Exultate 132, je le cite, « La parésia est un sceau de l'esprit, une marque de l'authenticité de l'annonce. Elle est l'assurance heureuse qui nous conduit à trouver notre gloire dans l'évangile que nous annonçons. Elle est confiance inébranlable dans la fidélité du témoin fidèle qui nous donne l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Comment les saints théologiens nous parlent de Dieu? Comment ils nous disent aussi leur attachement à Dieu? Eh bien, ils aiment l'Église du Christ et veulent la servir. Une façon finalement de dire que toute théologie, toute spiritualité et même toute mystique conserve toujours un caractère de service. Elle est d'abord, comme toute la sainteté en général, une mission dans l'Église. On sait que c'est l'apôtre Paul qui, sans écarter ni détruire les charismes subjectifs, les a préservés du danger du subjectivisme en les assujettissant d'une manière inexorable à la structure objective de l'Église, n'ayant pas en eux-mêmes leur finalité. C'est tout l'enseignement qu'il nous donne en 1 Corinthiens 12, 7 et suivant, quand il nous dit « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun ». Les charismes ne sont pas donnés, contrairement aux vertus théologales ou aux sept dons de l'Esprit-Saint, ils ne sont pas donnés aux personnes d'abord pour leur sanctification personnelle ou leur bien spirituel, mais pour le bien commun, c'est-à-dire le bien de l'Église et de la mission. Et ça, c'est vraiment ce qui illustre la vie et le témoignage des saints théologiens. Impossible pour les saints d'aimer Jésus sans aimer l'Église. On peut dire que l'expérience de l'Église est toujours avant tout une expérience des saints. L'Esprit-Saint, il est l'intériorisation, l'intimation du Christ au cœur de l'Église et de l'individu croyant. Et comme amoureuse de l'Église, on peut quand même citer parmi les saints, Sainte Jeanne d'Arc, son témoignage si fort et si simple. Jeanne, on peut dire, c'est l'amour de Jésus et de son Église vécu de la manière la plus absolue, la plus héroïque. Jeanne, cette jeune femme laïque qui représentait d'une manière lumineuse la sainteté de l'Église, on sait comment elle a été victime d'un terrible abus de pouvoir de la part des prêtres, des évêques, des hommes d'Église. Alors justement, la journaliste Élisabeth de Baudouin, en recueillant le témoignage du père François-Marie Lethel, elle a souligné le grand attachement que le père Lethel a voué à Jeanne d'Arc, dont il parle beaucoup dans ses écrits. Et c'est vrai qu'on sent chez lui une profonde admiration pour ces femmes courageuses et engagées. Il rend hommage à ces saintes qui non seulement restent debout dans la tourmente, comme Marie au pied de la croix, mais font preuve d'un grand leadership. Pour lui, quand tout va mal, c'est l'heure des femmes. Il en veut pour preuve la période de grande crise que la fin du Moyen-Âge a connue et qui a vu se dresser, alors outre Sainte Jeanne d'Arc, mais d'autres femmes héroïques comme Catherine de Sienne, Brigitte de Suède ou Françoise Romaine. Alors que les hommes d'Église ou d'État semblent perdus et comme paralysés, ces femmes inspirées qui parlent au nom de Dieu interviennent pour sauver ou redresser des situations désespérées ou pécamineuses. Certaines le payent de leur vie. Elles sont prophètes, oui, comme Jeanne d'Arc, brûlées par des gens d'Église. Voilà, cette Église dont elle affirme pourtant jusqu'au bout qu'avec Jésus, elle est tout un. Enfin, ces saints, eh bien, ils sont présents au monde et à l'histoire. Et ça, c'est aussi une caractéristique des saints, que de vouloir vivre au cœur de l'Église, dans l'actualité de l'événement de la révélation et du salut. Le pape François nous le disait, chaque saint est une mission, il est un projet du Père pour refléter et incarner à un moment déterminé de l'histoire un aspect de l'Évangile. Eh bien oui, les saints veulent être présents au moment et à l'endroit où a lieu l'événement du salut dans son actualité. Parce que c'est beau de croire que par la prière, par l'Église, par les sacrements, par l'Eucharistie surtout, est rendu Pâques, la mort et la résurrection de Jésus sont actualisées. Mais encore faut-il que cette actualité du salut, on puisse vraiment la mettre à la disposition des autres. Et ça a été le rôle des saints. Leur mission chrétienne, Voilà, ils la remplissent en communion avec le Christ, car le Christ est l'envoyé de Dieu dans le monde, qui les envoie à son tour et leur promet d'être avec eux pour toujours, jusqu'aux limites de la terre. Et ça, le fait d'être présent au monde et à l'histoire comme caractéristique de la sainteté, le pape François l'a souligné très fort dans Gaudete et Exultate au numéro 101, et là je cite, « Est préjudiciable et idéologique, dit le pape, l'erreur de ceux qui vivent en suspectant l'engagement social des autres, le considérant comme quelque chose de superficiel, de mondain, de laïcisant, d'immanentiste, de communiste, de populiste. Ou bien ils le relativisent comme s'il y avait d'autres choses plus importantes, ou comme s'il les intéressait seulement une certaine éthique ou une cause qu'eux-mêmes défendent. La défense de l'innocent, qui n'est pas encore né par exemple, doit être sans équivoque, ferme et passionnée, parce que là est en jeu la dignité de la vie humaine toujours sacrée, et l'amour de chaque personne indépendamment de son développement exige cela. Mais est également sacrée la vie des pauvres qui sont déjà nés, de ceux qui se débattent dans la misère, l'abandon, le mépris, la traite des personnes, l'euthanasie cachée des malades et des personnes âgées privées d'attention. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Dans les nouvelles formes d'esclavage et dans tout genre de marginalisation, nous ne pouvons pas envisager un idéal de sainteté qui ignore l'injustice de ce monde où certains festoient, dépensent allègrement et réduisent leur vie aux nouveautés de la consommation, alors que dans le même temps, d'autres regardent seulement du dehors pendant que leur vie s'écoule et finit misérablement. Alors on peut dire que ce n'est pas des propos vigoureux hein, de la part de notre pape. Alors moi je pense à Newman, dont nous parlera justement Jérôme Drouet. Ce grand intellectuel était en même temps un pasteur. On sait que Newman à Birmingham, avec les oratoriens, il vivait au milieu des pauvres, dans un quartier où commençait l'industrialisation. Newman n'est pas un penseur du social, mais il avait un très grand sens de la prédication aux petits, aux humbles. Alors pour conclure, parce qu'il faut le faire, je dis, oui, les saints nous parlent de Dieu. Ils sont les révélateurs du visage éternellement lumineux de Jésus. Sans eux, on pourrait dire que le message évangélique lui-même se serait perdu dans des systèmes. Il serait devenu scolastique pur, hein, au mauvais sens du terme, et finalement un pharisaïsme durci dans la loi. Si l'évangile conserve et perpétue toute sa nouveauté, c'est justement parce qu'à travers les mystiques, à travers les saints, à travers un saint François ou un saint Jean de la Croix, une sainte Thérèse de l'enfant Jésus, ressurgit la source infinie qui vient à nous avec un visage humain. L'auteur inconnu de la lettre à Diognète, du deuxième siècle à peu près, eh bien cet auteur a cette parole magnifique en parlant de Jésus. Lui qui était dès le commencement, il est apparu comme nouveau et fut trouvé ancien car il est éternel, et il renaît toujours jeune dans le cœur des saints. Voilà, alors ce n'est pas seulement dans le cœur des saints que Jésus veut renaître toujours jeune, c'est aussi dans le nôtre qu'il en soit ainsi.